gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Figgets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bienvenue dans la causerie sur Radio Canu 102.2 ou radioganu.org. Il est 22h et quelques petites brouettes et nous vous accueillons ce dimanche 19 juin au cœur de l'Euro et nous espérons que vous êtes plutôt avec nous plutôt que dans un bar à faire chier le monde ou à klaxonner avec votre voiture parce qu'on est à une semaine, on en a déjà marre autour de la table. Ce soir, on a autour de la table Jean-Yves.
Bonsoir.
Fab.
Salut.
Et bien sûr Clara, la technique.
Bonsoir.
Et on salue ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous.
Et Emma qui a fait l'ouverture, évidemment.
Voilà.
J'aurais reconnu sa voix.
Bonsoir. quelques petites infos si vous voulez nous joindre, par exemple le mail.
Eh ben le mail c'est lacausericanu@gmail.com
ou encore le blog.
C'est blogs au pluriel donc .radiocanu.org/lacauserie.
Et on est aussi sur Facebook.
Voilà. Mais voilà. Privilégiez le mail ou le blog.
Bien sûr.
C'est ça.
Vous aurez des bonus. J'espère.
Les autocollants de la causerie qui vous sont donnés, tout ça.
Et ce soir, une causerie au format, on va dire, plutôt traditionnel, classique, avec trois sujets assez différents. On va d'abord parler de traitement médiatique et après, on parlera bouquins et expos. Donc Fab, je crois que tu voulais nous parler du traitement médiatique justement autour d'Orlando.
Ouais, voilà, je voulais pas revenir sur la tuerie d'Orlando non plus, enfin l'attentat d'Orlando, je sais même plus maintenant, même moi je sais même plus comment on doit l'appeler, parce que ça arrête pas de changer. Et en fait pour moi clairement c'est un attentat homophobe à Orlando. 49 personnes qui ont été tuées et un traitement médiatique qui était assez étrange. Alors pourquoi je dis qu'il était étrange ? Parce qu'en fait, dès le départ, on sait que la personne attaque un club identifié comme un club gay, dit gay, voilà, ou du moins dans lequel la communauté LGBTIQ se réunit à Orlando. Et pourtant, dans les médias, on a beaucoup de mal à prononcer le fait que c'est un attentat contre un lieu homosexuel. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent, homosexuel. Voilà. En fait, ils ont du mal à dire simplement que c'était un club connu et créé d'ailleurs dès l'origine pour être un lieu de refuge d'une partie de la communauté homosexuelle, lesbienne, gay, bi et trans de la ville d'Orlando et en particulier de la communauté portoricaine. Voilà. Parce qu'il faut aller voir l'historique du club Le Pulse. Il a été créé par la sœur d'une personne qui est décédée du sida parce qu'elle avait remarqué qu'en fait parce que son frère était homosexuel et parce qu'il était en partie portoricain, on le mettait à l'écart de toutes les communautés, de tout ce qui existait et que donc du coup elle s'est dit qu'elle voulait créer un lieu qui était un lieu de refuge, qui était Le Pulse et qui était connu comme tel, où les gens se mélangeaient quelles que soient leurs origines ethniques, leur religion, leur sexualité, parce que ça, voilà, et qu'on venait y faire la fête et être en famille. entre guillemets, voilà. Donc c'est pas par hasard que le Pulse est visé. Et pourtant dans le traitement médiatique, on voit des gens qui hésitent à dire que c'est un acte homophobe, que on a visé les homosexuels et les lesbiennes, gays, bi et trans avant tout, que cette personne a une revendication clairement haineuse. Non, on nous dit simplement au départ que c'est une tuerie. On aime bien ce mot tuerie, c'est un truc qui veut rien dire. On parle pas vraiment d'attentat, on parle pas de massacre non plus. On parle au départ vraiment de tuerie. Et même le lendemain et même le surlendemain, alors qu'on sait à peu près, on n'en sait plus, c'est on sait que la personne a appelé la police, qu'elle a été, qu'elle a revendiqué certaines choses, qu'elle s'est rattachée à Daesh, mais finalement on sait plus vraiment si elle y est ou pas, ou si c'était juste pour faire bien. Du coup, on a vraiment un traitement médiatique qui est invisibilisant pour le fait que c'est un acte clairement dirigé contre la communauté LGBT. Et alors ça va aller loin parce que même les médias, friendly, comme ils aiment bien se définir, vous voyez, les médias de gauche, quoi. Bah même eux, ils pataugent en fait, ils savent pas comment mettre titré, ils tournent autour du pot, on se demande vraiment si ça les intéresse même, parce qu'on se rend compte qu'au final, c'est traité de façon assez étrange. Et alors, je vais faire une petite pique, surtout dans les médias d'extrême gauche, où d'un seul coup, parce que c'était des homos, des lesbiennes, des gays, des bi, des trans, puis en plus c'était américain. Alors on a un peu du mal à avoir de l'empathie, vous voyez, c'est des méchants, c'est des américains. Hein. Et là, ça devient complètement surréaliste, c'est-à-dire que là, carrément, on n'en parle presque pas, on fait pas de communiqué, on fait comme si ça n'existait pas, voilà. Même des médias d'extrême gauche qui vont quand même faire un communiqué quand deux policiers sont égorgés, ce qui est parfaitement normal, par un fou qui se revendique le site Daesh en France, mais qui là vont oublier de faire un communiqué pour les 49 d'Orlando. Voilà. Donc on voit l'homophobie latente, c'est l'homophobie de notre société. Alors tout à l'heure je parlais de famille parce que donc les gens qui allaient au Pulse parlaient souvent de leur famille, ils allaient en famille, c'était une expression qui était très courante, qui le sera j'espère de nouveau. Et en fait il faut savoir déjà que l'homophobie elle est là déjà dans la famille. Il faut savoir que la plupart des homosexuels, des lesbiennes, des gays, des bi et des trans n'ont pas une vie de famille heureuse. Voilà, pas qu'ils peuvent pas faire de famille, c'est déjà que leur famille les rejette, ça pour être très clair. Et que déjà, au départ, les lieux comme ça, ce ne sont pas des lieux communautaristes, comme on l'a entendu dans la bouche de certains, et en particulier même de certains membres du gouvernement. Non, ce sont des lieux communautaires, où en fait on sait qu'on va pas aller se faire taper dessus théoriquement quand on y va. Sauf qu'il y aura un après Orlando, parce qu'aujourd'hui on sait que ces lieux sont devenus des cibles. Et que c'est plus la même chose qu'avant, quand on se disait, là au moins on est à l'abri. Donc ça change un petit peu la façon de voir les choses. La deuxième chose, c'est que on voit qu'on a une homophobie latente quand on a des gens de la Manif pour tous qui arrivent à faire des tweets pour dire mais c'est dégueulasse de tuer des homosexuels à Orlando. Non mais t'es pas en train de te foutre un tout petit peu de notre gueule là quand même. C'est-à-dire que on a le discours de haine qui entraîne Orlando, parce qu'il faut être très clair, qui entraîne l'attentat et le massacre qu'il y a eu à Orlando, parce que les paroles c'est pas sans effet. Quand vous répétez que les homosexuels sont inférieurs aux autres, que les lesbiennes ne devraient pas exister ni avoir d'enfants, que les trans sont une abomination sur Terre et que les bisexuels ça n'existe pas, les gens ont qu'à choisir leur camp. Et quand vous passez votre temps à dire ça, et vous créez un climat de haine. Et ce climat de haine, il y a des gens qui le prennent au pied de la lettre. Et puis qui se disent, je peux acheter un fusil mitrailleur et je vais aller faire un carton. Et on l'a aussi trouvé dans les tentatives d'explication un peu tordues qu'on a essayé de nous faire sur le tueur d'Orlando. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui tue n'importe qui, je prends un exemple, par exemple quand vous avez des gens qui le 13 novembre flinguent des gens dans le Bataclan, on n'a pas trop cherché à savoir si c'était des gens qui étaient pro-liberté refoulés. Vous voyez. Par contre, là, à Orlando, il faut qu'on essaye de savoir si la personne serait pas un homosexuel refoulé. C'est un peu bizarre, quand même, comme truc. Et pour reprendre une phrase que quelqu'un autour de cette table a dit, que j'ai trouvé très bonne, c'est un petit peu comme si on disait, quand un mari bat sa femme, c'est peut-être un féministe refoulé, en fait, et qu'il le savait pas. C'est pas qu'on veut pas comprendre. C'est juste qu'à un moment donné, ça change rien à l'acte qui a été commis. Et surtout, ça doit pas venir en premier pour minimiser l'acte. Parce que c'est ça qui est terrible. Qu'après, on cherche à comprendre et à concevoir pourquoi la personne a ce cheminement, aucun problème. Mais que là, en fait, on passe plus de temps à minimiser l'acte pour parler finalement du tueur et finalement passer plus de temps à parler du gars que de parler des victimes, c'est un peu surréaliste, quoi. Puis surtout, à chaque fois, on essaye quand même, avec cette histoire d'homophobie refoulée, de nous faire le coup du « tous les homosexuels sont des malades qui s'ignorent mm-hmm. », parce que c'est venu dans la bouche quand même de beaucoup de gens de droite et d'extrême droite. Hein, vous voyez, ces homosexuels, quand même, ils sont un peu bizarres, hein, parce que quand ils se sentent pas bien dans leur basket, ils prennent les armes. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on essaye aussi de faire passer à travers cette logique-là. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment halluciné, alors que la manif pour tous, voilà. Je citerai quand même le tweet du président de la République
qui s'il te plaît.
Qui est magnifique, hein, où il se plante un tout petit peu en nous disant que c'est vachement bien les États-Unis, hein, parce que on peut vivre ses choix d'orientation sexuelle librement. François, si tu nous écoutes, j'en doute pas.
Je suis pas voilà. sûr.
Mais j'en doute
il
pas.
Il a choisi l'euro, je pense.
Non, parce qu'il aime pas le foot, je suis sûr qu'il a une oreillette. Non, mais voilà, mais. Tu sais, c'est pas un choix, hein. C'est un fait. Voilà. Et que même si ça en était un à la limite, ton tweet est débile. Donc, je veux dire, à un moment donné, voilà. La communication à tout prix, ça, c'est gênant. Et puis, je vais dire quelque chose de vraiment qui me tient à cœur. C'est pourquoi un tweet? Pourquoi est-ce que, quand on a un attentat au Bataclan en France, le président des États-Unis prend le temps de faire une déclaration télévisuelle aux États-Unis? Pourquoi est-ce que quand il y a un attentat qui se tient au Liban, on prend le temps de faire une déclaration télévisuelle en France parce qu'on est aux côtés de nos amis libanais, ce que je trouve parfaitement légitime? Et pourquoi lorsque c'est un club homosexuel d'Orlando qui est touché, où il y a 49 morts, bon, on fait un tweet? Voilà. Ça, c'est une forme d'homophobie sociétale aussi, vous voyez? Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, c'est quand même vachement moins grave que si ça avait été des gens qui étaient au Bataclan.
Bah, déjà, ils étaient homosexuels et ils faisaient la fête. Est-ce qu'ils le cherchaient pas un petit peu.
Hein, et qu'on le veuille ou non, ce climat-là, il est là, en fait. Mmh. On le sent, il est prégnant. C'est-à-dire que, on sent que ça, que même la personne qui a soi-disant mis le mariage pour tous, blablabla, blablabla, elle a quand même encore ce vieux fond d'homophobie qui lui reste, ce vieux fond d'emmerde où on n'ose pas dire les mots, pas poser les vrais mots, les vraies causes. Et on en est là, quoi, en 2016. Et c'est inquiétant, quand même. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça vraiment inquiétant. Mais voilà. Mais je sais pas si ça vous a pas choqué, vous, qu'il y ait que des tweets, parce que moi, je trouvais ça quand même un peu bizarre. C'est-à-dire que, enfin, est-ce qu'on imagine, par exemple, après le 11 septembre, un tweet pour dire condoléances aux... Non, on l'imagine pas. Or, je vous rappelle que l'attentat d'Orlando aujourd'hui, c'est le deuxième attentat le plus important sur le sol américain depuis le 11 septembre. Donc ça mérite un peu plus qu'un tweet, non? Je sais pas. C'est bizarre comme truc.
Si,
ben voilà.
Si tu élèves chaque être humain au même niveau, ben effectivement, oui. Ça nécessiterait une réponse. Mais je pense qu'effectivement, comme tu le soulignes, c'est que c'est révélateur d'un fond de truc. Alors, je suis pas en train de dire que Hollande c'est le plus gros homophobe.
Non, c'est un fond.
Mais c'est un fond, c'est une
c'est le même fond qu'on a avec les pays lointains.
J'ai presque l'impression.
Kilomètre, voilà. C'est un peu la même chose.
Si je me demande quand même jusqu'à quel point Hollande comprend quelque chose aux questions LGBT, en fait.
Elle y comprend rien, vu ce qu'il a écrit.
Mais c'est ça, le truc, c'est que, et que là, encore une fois, on est quand même dans une démonstration que, enfin, putain, les politiques, ils sont quand même loin de la réalité, des réalités, parce que, enfin, elles sont toujours multiples, les réalités, mais, et tu dis, waouh. Par contre, je voulais juste souligner, moi, il y a un média, enfin, en tout cas, un mec qui a bien parlé, c'est Massescaron de Marianne.
Ouais.
Peut-être que le fait qu'il soit lui aussi de la communauté, il a peut-être...
Il s'est senti touché, je pense.
Touché,
comme je pense à peu près.
Ce qui t'amène aussi des fois à avoir un regard un peu plus critique, justement, sur les notions d'approche. Lui, il le disait clairement, il disait, mais enfin, c'est quand même dingue, c'est que personne ne dit que c'est un crime haineux.
Oui.
Crime haineux en direction de la communauté LGBT.
Mais ouais, c'est surtout que, enfin, moi, ce qui m'a, une des choses qui m'a le plus choqué, c'est que le fait que ça se passe aux États-Unis, on a tout de suite rapporté ça comme une fusillade et comme, oui, en fait, il se passait il y a 10-15 ans, j'enlève pas la part d'horreur de ce qui se passait il y a 10-15 ans, mais dans les fusillades dans les lycées, par des personnes, voilà, qui arrivaient un jour armées. Et du coup, tout de suite après la fusillade, s'est posée la question du port d'armes. Alors, je dis pas, hein, c'est une question tout à fait soulignée et je pense que vous avez compris que nos opinions ici autour de la table, surtout là-dessus. Mais du coup, voilà, on a rapproché ça à une fusillade, au sujet des fusillades, qui est quand même un sujet à part. les profils sont pas les mêmes, et du coup tout de suite aussi on a écarté effectivement l'acte totalement homophobe et l'acte haineux en fait du tueur, quoi.
Et c'est ça moi qui m'a choqué. Et alors il y a eu d'autres choses après qui se sont déclenchées après ça, et une chose qui moi m'a touché quelque part pour elle, pas pour sa musique, je vais le dire tout de suite, mais c'est pour Cœur de Pirate, qui donc a fait son coming out et qui a dit bah voilà, je me suis forcé à être, c'est ses mots, hein, je me suis forcé à être et à vivre comme une hétéro parce que j'avais peur de ce qu'on penserait de moi et qu'on me rejette, mais aujourd'hui je peux plus, et après ce qui s'est passé, je peux pas me regarder en face si je continue. Je trouve que c'est une très belle déclaration, c'est quelque chose de très bien. Et donc elle a fait un interview avec son futur ex-mari pour expliquer tout ça, voilà, parce qu'elle était mariée avec un enfant. Et ce qui est terrible, c'est les messages qu'elle reçoit. Et là, les gens pensent ne pas être homophobes quand ils envoient ces messages-là, et bah, lesbophobes en l'occurrence. Ouais, ils envoient des messages en disant « Mais je ne comprends pas, Cœur de Pirate. Ah si, je comprends tes choix de vie. »
Alors, déjà, François Hollande, non ?
Mais non, c'est pas un choix. Arrête d'écrire ça. « J'adore ta musique, mais pour ton enfant, ne pourrais-tu pas continuer à te forcer pendant quelques années, au moins jusqu'à ce qu'il ait 18 ans ?» Voilà ce qu'elle reçoit aujourd'hui. Et j'ai envie de dire... Mais où vous en êtes, les gens, là? Vous allez où? C'est-à-dire que vous écrivez ça, vous pensez ne pas être haineux, vous-même. Mm-hmm. Ne pas avoir une fond de rejet, de dire, oui, mais quand même, ton gamin, tu vas pas l'élever en tant que lesbienne, quand même, vous voyez? C'est quand même terrible. Je veux dire, enfin, c'est quelque chose de, et c'est écrit par des gens qui sont persuadés de ne pas être, dans la haine, dans l'homophobie, dans la lesbophobie. Et ou la transphobie d'ailleurs, parce que c'est aussi comment ça s'appelle, Laverne Cox, qui est une actrice trans qui reçoit des messages aujourd'hui de soutien où on lui dit c'est génial que tu sois là, tu es le phare de la communauté trans. Alors, comme elle le dit, c'était pas son but, hein, elle se représente elle-même au départ. Et après dans le message il y a un truc qui est surréaliste, c'est oui mais quand même c'est vrai que toi tu ne sors pas en boîte, donc c'est mieux, vous voyez. Et là, d'un seul coup, on se dit, mais c'est quoi cette... Donc c'est un peu le truc que tu disais, ils l'ont un peu cherché, quoi. Il y a un petit peu ce côté derrière. Et les personnes sont persuadées d'être bienveillantes quand elles écrivent ça. Et on voit en fait le chemin qu'il y a à parcourir. Et je terminerai ma petite chronique là-dessus. Il y a des gay pride en ce moment. Des marches des fiertés, on dit en France, parce que c'est plus classe. Ce serait peut-être temps de les repolitiser. Ce serait peut-être temps d'y retourner. Ce serait peut-être temps d'arrêter de voir ça comme un grand carnaval où on fait la fête seulement. Et il serait peut-être temps d'arrêter de céder et d'arrêter de faire en sorte que nos gay prides soient après l'euro parce que c'est moins important. Parce que je rappellerai que ces enfoirés de l'UEFA ont même pas pris le temps de rendre hommage aux 49 victimes d'Orlando. Voilà. Par contre, ils ont pris le temps de rendre hommage aux 2 victimes en France. Donc quand on commence à estimer que les uns valent moins que les autres, on devrait se poser des questions, et que nos gay prides et nos marches des fiertés passent après l'euro, putain, ça énerve, quoi.
Voilà.
Ben voilà. Quoi rajouter?
Ce que tu veux.
Si, je voulais juste dire un truc quand même. Enfin, je reviens vraiment sur le début de ta chronique. Mais tu disais, on se sentait effectivement, on se sent toujours plus en sécurité en fait dans des lieux LGBT. Ouais. Même si, encore une fois, on n'a pas attendu Orlando pour se faire massacrer la gueule.
Non, c'est clair. Mm-hmm.
Non, mais enfin, c'était juste
pas,
ça.
C'était pas le sens de mon propos. Le sens de mon propos, c'était de dire qu'on a des lieux où qu'on savait safe et qu'on savait sûr et où on allait à un peu le cœur léger, ce qui changeait d'habitude.
On sait qu'on a beaucoup moins de chances de se faire agresser.
Voilà. Et là, ce qui change après Orlando, et là-dessus, je rejoins Massé Scarron dans ce qu'il disait d'ailleurs l'autre jour à la télé. Il y aura un après Orlando, c'est-à-dire que maintenant on se dit ben finalement on a aussi dans ces lieux-là des risques qu'on n'imaginait pas, et ça change qu'on le veuille ou non. Il faut quand même comprendre que et je le redis ici, les jeunes homosexuels, lesbiennes, gays, bi et trans ont 13 fois plus de chances de se suicider que les autres. C'est pas pour rien, c'est parce que ce climat de peur, de haine et cette peur d'être soi-même, elle pèse énormément, et qu'il faut arrêter de faire comme si ça n'existait pas et que tout était réglé parce qu'on peut se marier et faire des enfants. C'est pas vrai, c'est pas suffisant. Voilà.
Et justement, c'est ce que je voulais juste rajouter aussi, c'est quand on me dit que le mec qui a tué tout le monde est un homme refoulé, je voulais dire que souvent les gens en fait qui ont qui vivent mal en fait l'homophobie, etc., qui peuvent ramener au fait de pas forcément des fois sortir du placard, souvent ont tendance plus à retourner les armes contre eux et contre elles-mêmes.
Oui, c'est ça, ouais.
Avant de les retourner contre tout le monde. Il faudrait à un moment donné remettre aussi les choses dans le contexte.
Les pendules
en fait.
À l'heure.
Voilà. Bon, on se met un petit peu de musique quand même là-dessus.
Oui.
Allez.
What you need. What you need. Change your mind. Pleasure is never a passionate crime. What you want? What you want? What you want? What you got? What you got? What you need? You dismiss this, you'll miss this, you'll see. Moments are leading to my little deed. Feeling me feed, feeling so free. Watching you quiver with weakening knee. Never a passionate crime. Don't you dismiss this, you'll miss this, you'll see. Moments are leading to my little deed. Feeling me feed, feeling so free. Watching you quiver with weakening knee.
Retour dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu, sur radiocanu.org. Oui, on avait un peu oublié que c'était la fin de la musique. Voilà, et c'était Peaches avec Jean-Michel Jarre. Voilà, surprenant, non?
Exactement, surprenant, c'est le mot.
Et ben voilà, c'est et ça très, s'appelle très bon. What You Want, et c'est voilà, issu de l'album
Que veux-tu
Electronica 2. Voilà, et ben on va continuer ce voyage où on disait qu'on partait d'abord sur plein de trucs différents, et là on va partir sur des séries, n'est-ce
oui,
pas Emma?
Exactement, enfin sur un livre, sur des séries.
Ouais.
C'est
ah
un
oui,
peu
pardon.
Comme la vache qui... Ouais non, ça n'a rien à voir. Donc c'est un livre qui s'appelle Sex and the Series. Donc l'auteur c'est Iris Bray. Et c'est aux éditions...
Parce que soap.
Soap. Soap, comme un savon.
En anglais.
En avant, en anglais. Il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Je crois qu'il est sorti en mars, avril. Enfin bon, moi je l'ai commandé et j'ai dû, ouais, c'est ça, le recevoir début mai. Donc voilà. Iris Bray, juste pour la présenter très vite fait, c'est donc une auteure qui est franco-américaine. Je crois que sa mère est française et son père est américain. Elle a fait ses études entre la France et les États-Unis. Elle est docteure en cinéma et donc elle a décidé en fait d'inclure une pensée féministe dans ses études et dans sa thèse, et donc de se concentrer en fait sur la culture populaire, dont les séries, et donc d'étudier et la place de la femme et la place du sexe dans les séries. Et voilà, elle a aujourd'hui, donc elle a fini sa thèse, elle a publié le bouquin et elle donne des cours, il me semble qu'aux États-Unis, je sais pas si elle en donne en France. Enfin voilà, c'est pour la présenter, mais c'est quelqu'un de, elle doit avoir même pas la trentaine quoi, c'est une jeune docteure. Et donc dans Sex and the Series, ça c'est le titre principal, et en dessous on a Sexualité féminine, une révolution télévisuelle. Dans la préface, en fait, elle nous dit qu'elle a choisi de s'intéresser principalement à des séries américaines qui vont de la fin des années 90 à des séries hyper récentes, donc jusqu'à l'année dernière, qu'il n'y avait pas assez de matière en fait au niveau des séries françaises, que c'était pas du tout le même point de vue, parce que par exemple en France, la censure est moins grande étonnamment qu'aux États-Unis. Enfin, je reviendrai un peu là-dessus au niveau de certaines censures qui sont propres aux États-Unis. Et donc voilà, il y avait plus matière à étudier les séries américaines. Et avant de vous donner quelques titres des chapitres, ce qui est assez intéressant effectivement, c'est que du coup on a des séries totalement récentes. Et je pense que bon, alors si vous êtes amateur de séries ou même pas, mais si vous avez la chance d'en regarder quelques-unes, vous avez dû vous rendre compte, à moins de regarder que des trucs genre Castle là sur France 2 ou Marseille, que y avait quand même eu un bond sur les séries fait depuis 2-3 ans, avec des séries notamment sur Transparente qui abordent soit des thèmes LGBT avec des questions hyper féministes, queer, ou des séries qui, on va dire, sont un peu plus mainstream. Bah, je pense à une, parce que bon, je la regarde, qui est Girls, qui est montrée, enfin définie comme le Sex and the City nouvelle génération. Alors après, qui est totalement critiquable, hein, je veux dire, c'est quand même la vie de quatre personnages principaux qui sont un peu des bobos hipsters new-yorkaises, hein, je veux dire. Voilà, avec, on sait pas trop ce qu'elles font dans la vie. En tout cas, elles peuvent quand même se louer des appartements sur Manhattan. Mais, hormis de ça de côté, qui ont une sexualité qui est montrée à l'écran. C'est aussi dans Girls, des corps qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant. Enfin, voilà, l'actrice principale et productrice, Lena Dunham, est une personne, qui fait pas, on va dire, un 36 et qui fait pas un 1m80, qui est tatouée, et on la voit souvent en sous-vêtements, on la voit souvent nue. Bon, c'est sa propre série, hein, mais donc du coup voilà. Donc voilà. Et alors, pour donner un peu le sommaire, donc ça se présente comme ça. Toute la première partie s'appelle La parole et le sexe. Et en fait, elle nous dit tout simplement, en fait, que ça commence tout bêtement par là, avant de rentrer dans les détails, avant de montrer des scènes de sexe ou pas d'ailleurs. Ça commence par le vocabulaire. Et là-dessus, vous allez comprendre en fait pourquoi elle a choisi de s'intéresser plutôt aux séries américaines. Et c'est ce que je disais en tout début au niveau de la censure. C'est-à-dire que voilà, je vais vous donner les intitulés des sous-chapitres parce qu'ils sont totalement explicites, on peut pas faire mieux. Donc dans La parole et le sexe, le premier sous-chapitre c'est clitoris, le mot interdit. Et après voilà, c'est l'éducation des adolescents par le langage télé, le consentement, le plaisir des mots. Mais alors dans le tout premier chapitre, c'est vrai que ça commence fort, et en fait moi c'était, je veux dire, globalement, dans le bouquin, il y a plein de choses où, même si ça me faisait plaisir de voir ça écrit, c'était des choses auxquelles j'avais pensé. Autant, c'est quelque chose que j'avais jamais spécialement remarqué. Pourtant, je consomme pas mal de séries américaines dans tous les genres. Et en fait, elle nous dit simplement que le mot clitoris est pas prononcé, et enfin est inexistant, et le mot vagin est pareil, quasi inexistant des séries, dont notamment à cause de la censure. Donc c'est pas sur toutes les chaînes, hein. Je pense que on a connu justement notamment HBO qui a fait fort en en donnant, enfin, en propulsant Sex and the City fin des années 90, il me semble que c'était 98, le début de la série, où le, enfin, les mots vagin, clitoris, point G, il y avait aucun souci. Après, c'était pas non plus mis sur heure de grande écoute. Mais donc, la chaîne principale qui est ABC, et qui diffuse notamment la série à succès Grey's Anatomy, qui est quand même, on le rappelle, une série médicale. La créatrice en fait nous dit que il y a le mot pénis qui a été prononcé au moins je ne sais combien de fois dans une saison, je crois qu'elle comptabilisait plus de 17 fois, et par contre qu'elle a une restriction, enfin même pas une restriction, qu'elle n'a pas le droit d'utiliser le mot vagin parce que la connotation est trop sexuelle. C'est-à-dire que pénis est utilisé alors à des fins médicales, hein, c'est pas dans des dialogues on va dire intimes, c'est vraiment pour une opération, on prononce le mot pénis, mais ils ne prononcent jamais le mot vagin. Donc du coup, ils ont trouvé un détournement assez connu qui s'appelle vajayjay pour le dire vagina, qui ressemble mais qui n'est pas vraiment le mot vagin, tout simplement parce que il est censuré sur ABC à heure de grande écoute. Et donc son propos, le propos de l'auteur, c'est juste de nous dire que déjà ça commence par ça, c'est-à-dire que le chapitre qui suit, de toute façon tout est bien lié, c'est-à-dire l'éducation des adolescents par le langage télé, c'est ça, c'est-à-dire comment on peut parler et montrer le sexe si déjà on arrive à des inégalités, c'est-à-dire qu'on peut très bien prononcer le mot pénis parce qu'apparemment il ne serait pas connoté sexuellement, mais le mot vagin est proscrit. Donc déjà ça commence par ça. Donc il y a tout un chapitre effectivement là-dessus sur le vocabulaire, et après voilà, elle parle surtout du plaisir au féminin et des pratiques qui sont globalement complètement absentes des séries télé. Elle comptabilise un peu les scènes où il y a des pratiques purement féminines, non, mais par exemple, au niveau du cunnilingus, on voit très peu de scènes montrant un cunnilingus, mais c'est pareil, enfin, au niveau aussi des caresses. Par exemple, elle décrit une scène dans Friends, il me semble, où, un des je connais pas trop Friends, mais un des protagoniste demande en gros de l'aide, comme de comment, c'est même pas faire jouir une femme, je crois, c'est comment donner du plaisir à une femme, puis même ils utilisent une espèce de métaphore totalement pourrie. Et en fait, un autre, le personnage féminin, lui décrit la chose sur un espèce de schéma géant, mais on ne voit jamais le schéma en fait. Donc elle dit, l'auteur nous dit qu'effectivement, il y a toute cette part qui pourrait être sur l'éducation que les séries en fait ne remplissent pas, elles veulent pas du tout le faire, alors que ça pourrait très bien être un biais en fait pour le faire, quoi. Et ensuite, oui, elle nous parle aussi de cette espèce de, encore une fois, d'inégalité dans le vocabulaire et même au niveau des scènes entre les hommes et les femmes. Et elle nous donne l'exemple, c'est une série que je viens de regarder justement pour ça, qui est Togetherness, où en fait le mari surprend sa femme en train de se masturber, et en fait il arrive même pas à lui dire, il est, on va dire, choqué par la scène, il arrive même pas à prononcer tu te masturbes, il lui dit tu te branles, enfin qui est quand même spécifique à l'univers masculin, on va dire, et il arrive pas à prononcer tu te caresses, ou alors voilà quoi. Et elle, quelques minutes après, on la voit en discuter avec sa sœur, et c'est pareil, elle arrive pas du tout à trouver le vocabulaire, à mettre un mot là-dessus, sur ce qui vient de se passer, et on la voit totalement hésitante en fait dessus, on arrive, et c'est totalement absent effectivement du vocabulaire. Maintenant, vous ferez attention, mais il y a des mots qui sont propres, on va dire, à la sexualité féminine, qui sont totalement absents des séries télé. Et oui, alors il y en avait une autre partie, moi, qui m'a bien plu, parce que c'est quelque chose aussi que j'avais pas remarqué. Enfin, je me suis jamais trop posé la question, je dois dire. C'est là, elle consacre tout un sous-chapitre sur le plaisir. Le non-plaisir des femmes enceintes, et aussi une petite partie sur les femmes ménopausées, les sexagénaires, et ça, il est totalement absent en fait des séries télévisées, elle trouve très peu d'exemples, enfin en tout cas c'est souvent évoqué mais pas montré, et en fait elle nous dit que encore une fois on a un retour aux valeurs et à l'Amérique totalement puritaine, qui nous dit qu'en gros une mère ça reste une mère, donc c'est-à-dire que quand elle est enceinte c'est bon, elle a fait son job, mais le plaisir ne va pas en fait avec la maternité, en tout cas pendant qu'elle porte l'enfant. Il y a juste une scène effectivement qu'elle indique au niveau de la série The L Word, donc série principalement LGBT et surtout lesbienne bi, même s'il y a un personnage trans, mais bon il arrive vraiment à la fin des saisons. Mmh. Enfin bref, où il y a un des personnages principaux qui est enceinte et sa compagne, en tout cas il y a deux scènes de sexe où pendant que l'une est enceinte, elle lui dit voilà qu'elle la trouve complètement séduisante, même avec son ventre. Mais sinon, en fait, c'est quelque chose qui est pas du tout montré. Et effectivement, on a un peu une sacralisation de la maternité, et surtout de la maternité. Alors c'est un peu, deux termes, qui vont pas ensemble. Mais comme si c'était une maternité presque vierge, quoi, en fait.
Ouais.
Immaculée, ouais. Complètement, ouais. Et voilà, sinon il y a un chapitre aussi sur les violences, et je voulais juste revenir là-dessus, notamment sur l'inceste et aussi sur le viol. Et elle évoque une série où je sais qu'il y a énormément de succès, mais moi j'ai énormément de mal, et ce livre m'a fait comprendre pourquoi j'avais du mal avec cette série, et qui est Game of Thrones. Où je pense que vous en avez entendu parler, où il y a un an de ça, il y a eu un scandale face à une scène de viol, apparemment bien montrée à la télé. Et en plus, elle nous indique, donc il y en a au moins, la série hein, qui n'est pas si vieille que ça, comptabilise à ce jour au moins 4-5 scènes de viol. Et à chaque fois, en fait, on fait l'impasse sur la victime, c'est-à-dire que les scènes de viol, on voit toujours le regard et les expressions, enfin on se concentre sur la posture du violeur. Et jamais de la victime. On la retrouve jamais après. Et en fait, elle nous parle d'autres séries qui parlent de viol, où là, on va s'intéresser à la victime et on va voir en fait quels sont ses traumatismes. Et c'est vraiment des partis pris politiques, c'est-à-dire, qui sont totalement engagés, c'est-à-dire que c'est des manifestes contre le viol. Mais là, ce qui la dérange énormément dans Game of Thrones et où je la rejoins, c'est qu'on a des scènes de viol où on voit le désir dans les yeux du violeur, mais la victime après est laissée de côté, elle est pas du tout montrée pendant les scènes de viol, ou alors il me semble qu'il y en a une qui est montrée pour montrer qu'il n'y a pas de consentement, mais on dirait qu'elles sont laissées là, qu'il y a aucun traumatisme après, en tout cas c'est pas ça n'est pas évoqué. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on préparait un peu l'émission. Dans les bouquins d'origine, il n'y a pas, elles n'existent pas, quoi.
Elles peuvent exister, mais elles sont pas le cœur du. Enfin, moi, j'ai jamais regardé Game of Thrones, pardon. Pourtant, j'adore les séries et tout ça, et surtout cet univers-là. Mais ce qui m'a vachement surpris, c'est quand les gens me parlaient de la série, comme j'ai lu les 4 premiers tomes de Game of Thrones, je ne retrouvais pas du tout ce que j'avais lu. C'est-à-dire qu'il y a des scènes aussi dans les livres. Parce que c'est quand même des pourris, hein. Le but c'est de récupérer le trône de fer, faut s'entretuer, c'est des familles, enfin c'est Dallas à l'époque de l'heroic fantasy, hein. Je résume, mais c'est pas loin de ça. Et ce qui est moi ma surprise, c'est qu'en fait les gens me disaient, ah, oh, c'est super sexuel et tout, il y a du cul tout le temps. Pourtant c'est l'adaptation d'un livre que j'avais lu et je comprenais pas le lien. Mmh. Et en fait effectivement l'auteur dont j'ai perdu le nom, J.R. je sais plus quoi. Ça me reviendra.
Et Wing?
Non, mais ça ne reviendra pas, c'est pas grave. En fait, il a dit, oui, il y a une grande différence entre la série et mes livres, et c'est que HBO avait besoin de visuels marquants pour vendre la série. Et lui-même dit, le cul, il est là pour que la série marche, quoi. C'est là, c'est bizarre, non? Je sais pas. Il y a besoin de ça? Enfin, quelqu'un regarde Game of Thrones dans cette table parce que j'ai besoin d'un avis?
Absolument pas.
Si. Quelqu'un a la technique là-bas, je sais, a déjà regardé au moins une fois Game of Thrones, même pas.
Non,
mince.
Pas. Non, non, mais.
Okay. C'est alors.
C'est dommage. Non, mais c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, Game of Thrones, sous prétexte qu'effectivement, il y a tout un univers, moi aussi, hein, j'accroche normalement à ce genre d'univers, c'est... mais là, voilà, il y a des choses qui m'ont totalement dépassé. Outre le premier épisode sous la neige qui est juste long et terrible, voilà. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est pas mieux qu'une série. Et je vais être peut-être violente sur mes mots, mais je suis désolée, qu'une série de beaufs, quoi, parce que on montre de la nudité juste pour montrer de la nudité, ouais. Et pour faire augmenter l'audimat. Quand dans Girls, on voit Lena Dunham qui est nue. Qui a un rapport sexuel un peu particulier avec son amie et que effectivement après on la retrouve, elle se demande en fait si elle était totalement consentante et on la voit nue, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que on voit un corps déjà qui est on va dire commun et on voit bien qu'en fait elle est pas montrée pour exciter le spectateur, elle est montrée parce que c'est une scène de banale, c'est une scène du quotidien. C'est pour dire quelque chose, c'est presque politique que dans Game of Thrones, c'est vraiment de la nudité pour faire augmenter l'audimat.
Quoi. Mais HBO, c'est un peu les spécialistes parce qu'ils avaient fait Rome, ils ont fait Spartacus aussi. Et moi, j'avais regardé Rome parce que la période antique romaine m'intéresse beaucoup. Et alors, autant d'un point de vue politique, ils étaient justes. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient très bien retranscrit ce qu'était la politique romaine, c'est-à-dire les jeux de pouvoir, les gens qui s'entretuaient, le fait de tuer un sénateur parce que ça permettait de faire passer, voilà. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Par contre, il y avait une hyper-sexualisation dans la série, mais qui n'avait finalement pas grand-chose à voir avec la Rome antique. Parce qu'en fait, ils faisaient une sorte de mélange avec la Grèce et la Rome. Enfin, ouais. Parce que les Romains n'étaient pas du tout hyper-sexués, contrairement à ce qu'ils montraient. Et d'un seul coup, on se rendait compte que c'était juste parce que ça... Ouais, c'était la scène... facile et qui faisait marcher la série parce qu'on justement elle est diffusée aux États-Unis sur un réseau payant parce qu'HBO c'est une chaîne payante, c'est comme Canal Plus ici, et que du coup ça permet d'accrocher des gens qu'on n'accrocherait pas sur un réseau gratuit et avec une moins de censure parce qu'on est dans une zone payante et donc comme ça on vend quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, vous voyez, et c'est ça moi qui me dérange dans cette façon de faire quoi. Je sais pas si c'est ce qu'elle...
Si, mais totalement, ouais.
Pas, mais voilà.
De toute façon, je pense qu'on pourrait refaire des émissions sur le bouquin. Je pense que, enfin, je referai une chronique sur la partie des sexualités queer, parce qu'effectivement, il est vraiment pas long, mais moi, ça m'a donné envie de découvrir d'autres séries, de creuser d'autres questions et d'autres problématiques. Mais juste donc pour rappeler les principales infos, même si on les mettra sur le blog. Donc l'auteur c'est Iris Bray et le livre s'appelle Sex and the Series et il est sorti il y a vraiment de ça 2 mois. Et aux éditions Soap.
Moi j'ai une petite dernière question avant la musique.
Oui.
En fait, qu'est-ce qui lui a donné l'envie de creuser sur les séries en fait? C'est elle est série.
Elle en regarde énormément.
Ouais. Ouais, et du coup, elle s'est dit, ouais, voilà.
Enfin, je sais pas, j'ai pas les chiffres officiels et tout ça, mais enfin, je pense que la consommation, si on peut l'appeler comme ça, de séries, etc., je pense que c'est vraiment un phénomène.
Oui,
je pense qu'il prend vraiment, qui a commencé il y a un moment, mais qui va.
Oui, il y a des études, de toute façon, faites d'audimat spécifiques aux séries,
Oui, c'est ça, c'est vraiment devenu quelque chose de vraiment commun aujourd'hui, quoi. Et après, ce que je me suis noté 2-3 petits trucs aussi, mais c'est ce que je me disais, c'est qu'effectivement, on attendrait des séries qu'elles appréhendent qu'elle nous aide à appréhender des choses, mais que finalement, si on n'a pas le vocabulaire, si on n'ose même pas nommer les choses, qu'est-ce qu'on veut appréhender? C'est autour de la sexualité, tout ça. Et après, ben, encore une fois, on retrouve dans certaines séries tout ce qu'on retrouve ailleurs. Enfin, elles sont quand même à l'image aussi, je trouve, de notre société qui finalement est patriarcale, où le viol, dès qu'une victime ose parler, on va forcément minimiser tout plein de choses. Enfin, je pense que c'est peut-être ce qui est le plus dramatique, c'est que même dans les séries, on retrouve quelque chose de, enfin, qui ressemble à notre société, quoi.
Sauf dans Joséphine Angegarde.
Non, t'as pas le droit. Allez, vite, de la musique. Vite.
Favorite color in my favorite tone, the song. breakup, we got it going on. It's what you gathered from my talk, but you were wrong.
I can't feel nothing ever since my baby.
Et oui, vous êtes de retour dans la causerie et on vient d'écouter Lana Del Rey avec The Black Custody.
C'était et beau.
C'était beau. C'était touchant.
C'est vrai.
Et Jean-Yves, nous croyons...
On est même presque sûr.
Oui. Que tu veux nous parler d'une exposition.
Oui, dont je n'ai absolument jamais parlé. si dans les deux dernières causeries, je vous ai dit, n'hésitez pas à sortir, aller au musée, et on vous a rappelé qu'il y avait l'expo Yoko Ono, et bon, ben, je l'ai faite, j'en suis bien content. Et je voulais vous en parler, parce que là, en plus, autour de la table, on est plusieurs à l'avoir fait. Et,
oui.
Voilà, c'est génial cet engouement. Et donc voilà, donc c'est jusqu'au 10 juillet, je le rappelle, sur les trois étages du Mac, en fait, il y a que du Yoko Ono.
Du
Yoko Ono.
Non, du Mac.
Du Mac, du Musée d'Art Contemporain, pardon.
De Lyon.
De Lyon, excusez-moi. Ouais, si au cas où on vous envoyait à Marseille, Strasbourg ou Brest. Enfin bon. C'est la première rétrospective, en fait, consacrée à Yoko Ono.
En France, ouais.
En France. Donc, c'est plus de 100 œuvres, des poèmes illustrés de 1952 aux grandes installations de 2016, mais aussi des films, il y a des performances, enfin, c'est vraiment top. Et, c'est ce que je retrouvais dans le doc aussi, presse, c'est que c'est fidèle à l'esprit de l'œuvre de l'artiste, en fait. C'est que c'est une expo qu'on vient voir, qu'on vient aussi écouter, et c'est aussi une qu'on peut expérimenter. En tout cas, il y a des installations qu'on peut expérimenter. Donc, j'ai pas forcément, enfin là j'en ai mis plein des différentes œuvres qu'on peut trouver, mais ça va vraiment être d'une de ses premières performances qui était très célèbre. C'est Cut Piece, c'est bien ça? Où en fait elle s'était installée, alors la première fois c'était en 65, elle a refait cette performance 40 ans plus tard au moins. Et
50 ans,
ouais,
en 2013.
5 ans, même peut-être.
Bah non, 2013. Ouais, 15 même.
Ouais, je dirais peut-être plus même.
Ouais, enfin.
Donc en fait, ça consistait à Yoko Ono qui s'agenouillait sur une scène dans une posture traditionnelle de femme japonaise et impassible, l'artiste invitait les spectateurs à venir découper des morceaux de ses vêtements et ce qui amenait à s'interroger sur le corps, sur la vulnérabilité. Merci. Heureusement que vous étiez aussi. L'exhibitionnisme, le voyeurisme, les rapports de domination, de violence dans les relations humaines, etc. Et il y a ces deux projections, en fait, simultanées, en fait. Donc, on peut appréhender les différents comportement, on peut dire, que le public a pu avoir. Il y a aussi une grosse pièce, enfin, c'est à l'entrée du Mac.
Si je peux t'interrompre sur cette œuvre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'a refaite parce qu'elle pensait que ce serait mieux aujourd'hui, et qu'en fait, c'est pire.
Oui.
C'est-à-dire que les gens sont beaucoup moins respectueux d'elle aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans les années 50.
Bah, oui, on peut le dire vite fait. Elle a quand même dans les deux vidéos des robes assez longues avec des manches longues qui sont faites exprès. Effectivement, dans les années 60, les gens sont plutôt timides, enfin, au premier abord, sont plutôt timides, hésitent même à couper les petites pièces et coupent les plus petits bouts de tissu qu'ils peuvent. Il y en a même qui coupent des fils, me semble. Et là, il y en a un, alors donc 2013-2015, on n'est pas bien sûr, enfin bref, c'est... après 2010. Il y a quand même un homme qui prend un malin de plaisir de couper à deux endroits de tissu. En plus, il me semble, c'est en dessous de sa poitrine et un autre pour... il coupe un bout de tissu qu'il retenait, en fait. Donc, il la dénude pratiquement. Et on voit, en fait, qu'il est content de son truc, quoi. Mmh. Et aussi, dans l'œuvre, peut-être ce qui est important de dire, c'est qu'ils repartent avec les bouts de tissu de l'artiste. Donc, ils prennent aussi une partie d'elle, ce qui est quand même... qui veut dire aussi, ce qui est assez symbolique.
Et il y a aussi effectivement la première pièce en fait qu'on voit qui fait partie de cette rétro, c'est le wagon en fait qui est à l'extérieur du MAC, du Musée d'Art Contemporain, pardon, qui est appelé freight train, ça veut dire train de marchandises. Et alors là c'est pareil, enfin t'arrives dans ce truc, tu dis waouh, tu sens que le truc est pas très très sympa, enfin c'est, et en fait c'est, alors je vais quand même vous donner quelques trucs, hein, c'est que le wagon en fait il est traversé d'impacts de balles, il y a une lumière qui s'en dégage, etc. Et en fait, elle l'a fait parce que c'était pour rappeler l'histoire de d'immigrés mexicains dont le wagon est resté planté au milieu du désert et qu'on a laissé crever là, quoi. Et que c'était aussi, mais aussi avec une notion de se souvenir de ça pour ne pas que ça recommence. Oui. Enfin, c'est pas une noirceur en fait dans ses œuvres quand même.
Et elle fait aussi un lien historique avec ce wagon, avec la Shoah, avec tous les wagons qu'on utilise pour détruire des humains.
C'est ça.
Et en fait, c'est intéressant parce que justement, nous qui sommes européens et pas américains, parce que Yoko Ono est américaine, enfin vit aux États-Unis, pardon. En fait, nous, la première chose auquel on pense quand on voit le wagon,
bah moi en tout cas, oui,
c'est l'image de la Shoah.
Oui, tout à fait.
Et elle a, la première chose auquel elle a pensé, c'est les Mexicains qui traversent, parce que c'est les drames qu'ils vivent. Mais en fait, elle fait un parallèle en disant, en fait, c'est les mêmes drames au final. On laisse juste crever des gens, en fait.
C'est ça. Ouais. Et donc voilà. Enfin, en tout cas, enfin, je pense qu'on vous presse vraiment d'y aller. C'est jusqu'au 10 juillet. Il y a plein de choses, c'est très politique, enfin vraiment, moi j'ai découvert, hein. je voulais y aller parce que je me dis tiens quand même voir ce que c'est, et vraiment faut y aller parce que c'est vraiment, enfin moi j'étais peut-être surpris ou je sais pas, mais enfin il y a très peu d'œuvres qui ne sont pas politiques en fait. Alors politique, alors ça va effectivement de ce qui est autour de la guerre et de, en tout cas du pacifisme avec War is Over. Il y a vraiment pas mal de choses autour de ça, et il y a aussi autour de la mort quand même. Enfin, il y a à un moment donné, vous arrivez dans une grande pièce, il y a une multitude de caissons qui ressemblent à des cercueils et
de différentes tailles
et finalement il y a des arbres en fait, enfin il y a un arbre
qui émerge du cercueil,
enfin il y a
c'est des arbres qu'elle a qu'elle a acheté peut-être pas elle mais en tout cas qu'elle les a pas importés quoi.
Et tout est recyclé, même les espèces de cercueils,
les arbres sont replantés
et les planches recyclées pour autre chose.
C'est ça. Donc il y a vraiment une démarche, hein. Tout est vraiment très réfléchi, je trouve. Il y a plus de 150 instructions, c'était aussi une œuvre qu'elle a construite, et c'est 150 instructions que vous pouvez lire pour créer des œuvres. Et il y a vraiment quelque chose de la réappropriation ou du passé en fait, une forme de savoir si on peut appeler ça comme ça, mais de passer aux gens pour expérimenter. Et vraiment c'est vraiment quelque chose de très marqué dans ses œuvres, parce qu'il y en a plusieurs vraiment que vous pouvez vous-même essayer. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, à ces échelles, des différentes échelles de hauteurs différentes, et qui est sur une notion de
changer de point de vue.
Mm-hmm. On voit selon d'où on est, etc. Et vous pouvez monter sur des échelles, quoi.
Je vais juste rappeler quelque chose qu'on oublie de dire. C'est que Yoko Ono, c'est quand même elle qui a créé l'art conceptuel. C'est-à-dire la notion de donner des instructions pour faire une œuvre d'art. C'est un concept, en fait, hein. Et en réalité, elle est très très peu citée comme étant la créatrice. Il y a plein aujourd'hui d'artistes mâles qui sont cités dans l'art conceptuel. Par contre, celle qui l'a inventé, généralement, on oublie de la citer. C'est bizarre, ce serait pas parce que c'est une femme, si c'est ce qu'elle dit d'ailleurs elle-même dans une de ses œuvres.
Je crois bien que c'est ça. Hein. Je pourrais encore aussi vous citer Family Album. C'est Blood Object. C'est 5-6 objets qui sont posés un peu presque sur des plateaux. Ça va d'une table préparée à des lunettes, à une batte de baseball, à des cintres qui ont des traces de sang, et voilà, enfin il y a vraiment, c'est, vous pouvez pas rester, je pense, même si on n'aime pas, on ne peut pas rester je sais pas comment dire, passif face à tout ça en fait.
Bah, surtout moi, il y a une œuvre dont j'ai perdu le nom, mais tu l'as peut-être, sur les violences faites aux femmes, qui est juste
non, je l'ai pas, j'ai pas
juste
le nom.
J'ai perdu le nom complet, mais qui est une pièce complète mise en scène par Yoko Ono avec une vidéo, des sons et des témoignages qu'elle demande aux femmes d'écrire et qui sont accrochés au mur. C'est à mon avis c'est une des œuvres les plus perturbantes que j'ai vues de ces dernières années, et pas perturbante dans le sens où elle cherche à vous perturber, perturbante dans le sens où elle vous met en face d'une réalité qu'on refuse de voir, et que d'un seul coup on l'a là en face de nous. Et comme toujours avec Yoko Ono, c'est un peu voilà. Bah maintenant, démerde-toi pour changer la réalité, parce qu'elle n'arrête pas de le dire. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a même des petits cartons avec. C'est une œuvre en part entière où il faut le prendre pour changer son point de vue sur le monde. Et en fait, voilà, c'est l'idée. Elle est là, elle montre une réalité. Elle a les moyens de le faire à travers son art et à travers son exposition. Mais par contre, elle ne donne pas de leçons. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et cette œuvre-là, moi, je l'ai trouvée vraiment très perturbante, au sens cogitation. Mm-hmm. Voilà.
Oh oui, oui. Enfin, elle est effectivement. Enfin, il y a pas mal d'œuvres sur les violences, sur la violence dans sa globalité. Ça va de la guerre, effectivement, mais aussi plus spécifiquement, en fait, la violence que les femmes subissent. Et enfin, c'est vraiment. Mais courez-y, allez-y. Enfin, c'est c'est juste, enfin vraiment ouais, c'est perturbant. Je sais pas comment on peut utiliser quel mot, mais allez-y, courez-y parce que ça vous secoue, mais c'est ce qu'il nous faut, je crois aussi. Et ouais, enfin voilà, je vais pas m'étendre plus que ça quand même. Si je voulais citer encore une fois, si juste ce premier film qu'elle avait fait, c'est une vidéo qui s'appelle Fly en fait, et c'est une mouche en fait qui parcourt le corps nu d'une femme et je reprends les mots.
On laisse s'enfuir par la fenêtre.
Et qui ensuite s'enfuit par la fenêtre. Et Yoko Ono disait en fait, enfin c'est ses mots, hein, c'est le film évoque ce qu'une femme endure sous le regard d'un homme. C'est un manifeste féministe, tout sauf du voyeurisme. Tout le monde est cette femme qui est simplement allongée, qui se contente de subir. C'est moi, cette fille qui meurt sous les mouches, et celle qui gémit et qui pleure intérieurement. C'est moi. Enfin vraiment, mais allez-y, courez-y, ouais. C'est jusqu'au 10 juillet, c'est au Musée d'Art Contemporain de Lyon, c'est quasi tous les jours, je crois bien. Pour celles et ceux qui sont au RSA, qui sont pas imposables, qui sont étudiants, il y a des tarots, enfin il y a des tarifs, pardon, préférentiels, et c'est gratuit.
C'est gratuit pour les
majoritairement, effectivement. Donc courez-y, vraiment. Là, le blé, le fric, là, c'est pas un frein.
Ouais.
C'est le frein qu'il peut y avoir, c'est nos cerveaux et nos esprits. Donc combattez un petit peu ça et puis allez-y, courez-y. Voilà, jusqu'au 10 juillet.
Et moi je vais continuer à taper sur les faits qu'on parle qu'aux hommes. Et vite fait, je rappellerai que Yoko Ono, pour ses films, faisait partie du mouvement Fluxus, et que personne ne cite jamais Yoko Ono quand on parle du mouvement Fluxus. Et c'est dégueulasse parce que c'est quand même celle qui a fait le plus pour ce mouvement-là. Voilà. Et vous, je laisserai chercher les auditeurs et auditrices que c'est d'ex mouvement.
Yes. On passe à la musique, si ça veut bien.
Yeah.
et vous êtes toujours à la causerie. On vient de s'écouter I'm a Witch de Yoko Ono. Et justement, c'est aussi ça qu'on découvre, en tout cas que moi j'ai découvert, c'est qu'elle a une playlist, enfin elle a créé un nombre de musiques, etc., d'albums, etc., qui sont juste énormes. Enfin bref, courez-y, encore une fois, c'est une bonne raison en plus. Voilà, alors on termine vite avec quelques brefs, des rendez-vous et tout ça et tout ça.
Oui, le 21 juin, c'est la fête de la musique et il se passe plein de trucs dans les rues de Lyon. Et mais on a les amis de la FRACO, souvenez-vous, la FRACO, c'est une association qu'on a reçue, qui, pour les fêtes de la musique, seront à l'esplanade du Dauphiné, c'est dans le 3e. De 19h à pas d'heure, hein, quand ils, on verra quand ils pourront finir. Et ils proposent donc de se restaurer, de boire un petit coup pour remplir les caisses de l'association là-bas. Et puis il y aura donc des groupes comme Afro Diaspo qui nous vient du Sénégal, il y aura Matière Sombre qui fait du rap lyonnais, il y aura Orgasmix, ça j'aime bien le nom, qui fait de l'afro house latino, et puis DJ Seb qui finira la soirée pour nous enflammer. Voilà, c'était bien bah quoi.
OK.
Je trouvais DJ Seb, c'était marrant. Voilà.
Donc ça c'était le 21
à partir de 19h, esplanade du Dauphiné.
OK, rendez-vous ensuite le 23. Attention, tout le monde a ses agendas. Le 23, nouvelle manif à l'appel de l'intersyndicale, hein, parce que contrairement à ce que les médias de masse arrêtent pas de dire, c'est pas que la CGT. Il y a plein d'autres choses. Hein, c'est pas que je n'aime pas la CGT, c'est juste qu'on oublie en fait tous les autres qu'il y a derrière.
Il y a 7 organisations.
C'est ça, il y a 7 orgas. Donc voilà. Donc c'est à Lyon, c'est à 13h, manufacture des tabacs. Soyons les plus nombreuses et nombreux. Hein,
contre la loi travail.
Plus contre la loi travail, effectivement. Ouais. Et ce gouvernement qui veut interdire les manifs, mais pas l'UEFA. C'est ça quand même.
C'est enfin, quand bref. Même fou.
C'est fou. Toi, t'as un rendez-vous le 24.
Ouais, encore une fois avec les copains de Fumer cette fois, parce qu'ils
c'est
sont passés
copains,
ici.
En fait.
Voilà, alors c'est Foutoir et Criart.
Ah,
Criart et Foutoir. Qui fait une soirée mode musicale. C'est au CCVA de Villeurbanne, c'est au 234 Cour Émile Zola. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le métro Flachet. Voilà, c'est un concert avec une exhibition de c'est un défilé de mode.
Oui.
et donc voilà, et puis l'idée je voulais essayer de faire un truc drôle mais c'est pas passé.
J'en ai tout le temps là.
Voilà.
Arrête,
il y aura Sandrine Dubois, dit le moineau, il y aura c'est son nom, il y aura Ciao Boum Boum.
Et c'est des créateurs là.
Ce sont des créateurs et des musiciens.
Okay.
Voilà. Et il y aura Daddy et Charlie et Bernard.
Mais on sait pas qui c'est.
Et voilà. Justement, faut découvrir.
Pas, il faut aller les découvrir. C'est le 24 et c'est au CCVA de Villeurbanne avec les copains de Foutoir et de Criart.
Ok. Et un dernier rendez-vous que encore des copains. C'est franchement la causerie, c'est un peu le réseau, le noyautage quoi. Ouais, c'est ça.
Disons qu'on fait pas semblant de pas les connaître.
C'est ça. Et c'est le clap. Souvenez-vous, on les a déjà reçus et ils ont fait des super trucs. Là, c'est le festival de fin de saison. C'est donc le samedi 25 juin, c'est de 16h à minuit, place Bellevue dans le premier arrondissement. 16h-18h, il y aura des projections vidéo. À 19h, il y a des matchs d'impro pour celles et ceux qui aiment ça. Et à 20h, il y aura des concerts. Et il y a évidemment tout ça, c'est gratos. C'est ouvert à toutes et tous. Et sur place, on peut boire et manger.
Youhou.
Voilà. C'est cool.
Voilà.
Et 23h10, il est l'heure de se quitter quand même, je crois.
Oui.
Et on se quitte en écoutant je sais, j'ai vraiment été trop marqué par cette expo, parce qu'on se quitte avec Give Peace a Chance de John Lennon, on l'entend résonner aussi durant cette expo.
Et je quoi peux dire, tu veux dire une bêtise?
Non, je peux dire que sans Yoko Ono, John Lennon n'aurait pas fait d'aussi bonne musique. Parce que je le pense. Et bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Bonne semaine.
La semaine prochaine avec Georges pour une émission astronomique et un petit peu astrologique. Voilà.
Okay.
On se fait des bisous, tout ça.
Salut.
Bisous.
Come on.